Donc un micro jaune et un micro vert viennent d'arriver en studio avec
nous. Salut, salut.
Alors il s'agit de Cédric et Marie pour Wiki de Pigeon et pour le collectif Oreca. On avait reçu Wiki de Pigeon il y a quelques temps dans cette émission, avec plein de projets, plein d'envies, plein de choses culturelles qui avaient envie d'être mis en place. Et finalement, en fait, le secteur a refermé. Et donc, qu'est-ce qu'il en est aujourd'hui, en fait? Donc, Marie, peut-être présenter Wiki de Pigeon et toi-même, et puis Cédric, pareil.
Alors, bonjour tout le monde. Je m'appelle Marie et je suis présidente de Wiki de Pigeon. Wiki de Pigeon, c'est une association bruxelloise qui a été créée un peu avant la crise Covid et qui finalement c'est un peu transformé grâce à cette situation un peu merdique, il faut l'avouer. Et donc, nous, on soutient les industries créatives, culturelles, événementielles et Oreca. Et on organise des événements, mais on soutient aussi la communauté, que ce soit par de l'aide alimentaire ou par des conseils de la consultance.
Cédric Jamard, du collectif Resto Bar de Bruxelles. Donc, c'est pas collectif Oreca, c'est important à souligner.
C'est vrai.
Bon, il faudra qu'on revienne dessus éventuellement, mais impliqué dans la représentation du secteur dit non essentiel depuis le mois d'octobre. Occupé de faire entendre des revendications, des positions. À politique et en même temps politique de par la nature de notre discours. En gros.
Et donc, ça veut dire que vos revendications actuelles et votre discours, autant en parler directement.
Ah oui, on peut tout à fait. Être plus précis, qu'est-ce qu'on pourrait dire? Ce qu'on constate, c'est que à chaque prise de parole du gouvernement, à chaque décision, et de préférence, on l'aura bien compris, unilatérale, on se rend compte qu'en fait, tout ce qui ne correspond pas à certains critères de la part de ce gouvernement est mis de côté, non seulement mis de côté, mais en plus de ça, limite pointé du doigt, dénigré, voire même sous-entendu, pris comme étant en partie responsable de ce qui nous arrive, ce qui est assez insupportable. Et donc, dans les revendications que nous portons, il y a pêle-mêle le soutien de nos travailleurs qui sont laissés sur le côté, qui sont empêchés de travailler, mais avec toujours les mêmes frais, remplir le frigo, payer le loyer, etc. Les étudiants, c'est la même chose. Les étudiants qui, dont le métier principal est d'étudier, de se former pour devenir des citoyens engagés ou en tout cas intégrés dans cette société. Et en plus de ça, prennent une partie à charge de leurs dépenses, eh bien, sont également empêchés de travailler. Donc, il y a une double peine, puisqu'il y a toute cette partie socialisation, formation, qui a été mise sur le côté, qui a été radicalement transformée, mutée, et qui ne sont absolument pas soutenues, en tout cas pas suffisamment. On l'entend, les témoignages sont assez alarmants de ce côté-là, voire même catastrophiques. Et puis il y a les exploitants, il y a les enseignes, les gens qu'on représente ici dans ce collectif, qu'on a mis dans une position absolument insoutenable et qui est à la fois de ne pas pouvoir travailler, d'être interdit de travailler, et en même temps de devoir continuer à assurer leurs charges, évidemment le loyer, évidemment les assurances, évidemment les fournisseurs, évidemment, etc. etc.
Pendant ce temps-là, il n'y a aucune source de revenus et pourtant les charges continuent.
Mais oui, tout à fait. Et ceux qui mettent en cette position impossible ces enseignes sont parfaitement sourds à cette autre partie du discours qui est mais il va bien falloir nous aider, parce que on ne peut pas à la fois être empêché de travailler et en même temps devoir continuer à payer ses charges, ce prix incompressible du travail, et ça, manifestement, c'est un discours qui ne passe pas.
Et c'est quelque chose qu'on voit, en fait, qui est très visible en rue, avec le nombre de commerces à remettre, le nombre de faillites, et c'est vraiment là.
fait. Oui, c'est vrai que j'en parlais justement hier avec des administrateurs de Wicked Pigeon. Certains ont été faire de la consultance chez Cocotte, qui fait partie du Hub Brussels, pour un de nos bénéficiaires qui s'appelle Nakati. Ils sont super d'ailleurs, je fais leur petite pub. Et c'est dans l'île sacrée en fait. Et ils se baladaient pour rejoindre ce nouveau local. Et ils m'ont envoyé des messages en me disant que, en fait, il y avait vraiment plein d'affiches partout. Qu'en face de ce Cocotte, ben, il y avait deux restaurants Armed juste à côté, il y en avait un autre. Et en fait, c'est comme ça partout. Et c'est pas que comme ça à Bruxelles. Hein. J'ai été à Mons il y a deux jours et j'ai fait une petite balade nocturne, enfin pré-nocturne là-bas. Et j'ai fait des photos des établissements où il était écrit commerce Armed. Ça faisait mal au cœur. C'est vraiment quelque chose de global qui atteint tous les endroits en Belgique, pas que Bruxelles.
C'en est à se dire que, alors c'est sans doute prématuré de l'affirmer, mais globalement on peut se dire d'ores et déjà que l'Horeca d'il y a deux ans n'existe plus dans la forme telle qu'on l'a connue, que ce qui se profile n'est pas spécialement glorieux, et que plus on attend, plus on recule, on retarde le soutien financier, les indemnités qui sont dues. Ce serait assez logique de l'entendre tel quel. Plus elle tarde à venir et plus l'impact de cette gestion, disons, hasardeuse, pour rester poli, va être important. Et pour au final donner, changer radicalement la face de Bruxelles, mais globalement la face du pays, et pour donner la part belle à ce contre quoi les petites enseignes que nous représentons au final se sont battues depuis déjà quelques années, à savoir la spécificité du terreau bruxellois en termes d'offres d'horeca, ce qui va vraiment à l'encontre de ces grosses enseignes, qui font que globalement Bruxelles pourrait ressembler à un centre commercial. Ce qui arrive, ce qui va arriver, et ce qui au final va faire perdre toute sa valeur culturelle, historique à Bruxelles.
Parce qu'il y a une forte inégalité en effet entre ces grosses enseignes et les petits commerces en fait, qui eux la tombent un à un en fait.
C'est assez intéressant cette situation parce qu'elle nous permet aussi de souligner dans le recal, je peux en témoigner, mais globalement dans plein d'autres secteurs, c'est que la manière dont c'était organisé, géré, administré avant cette crise était déjà précaire, était déjà brinque-ballant, et cette situation souligne, met au grand jour les failles profonde de cette manière de gérer, alors l'horeca, je l'ai dit, mais aussi la culture, mais aussi l'enseignement, etc., etc., etc. Et on en arrive à un bilan globalement extrêmement négatif. Hein? Et il y a plusieurs inégalités, on peut le souligner ici. Inégalité entre les régions, inégalité de traitement entre les tailles d'enseignes, et puis inégalité entre les personnes qui se retrouvent à travailler dans les clous imposés par l'État, mais ça c'est autre chose, on devrait pouvoir en parler autre part.
Oui, et puis ça me fait surtout aussi penser à des situations que je vois au quotidien en tant que consultante. J'ai beaucoup de petites enseignes qui viennent vers moi, ou des petites ASBL, et pour le moment ça arrive souvent, qui viennent nous poser des questions pour savoir est-ce qu'ils ont droit à l'une ou l'autre aide, est-ce que telle prime est faite pour moi, est-ce que je rentre là-dedans. Bah déjà c'est assez complexe de comprendre certains textes ou de pouvoir se projeter, savoir est-ce que cette situation parle de moi ou pas.
Il n'y a pas d'accompagnement.
Il y en a, mais il est parfois, enfin tout le monde ne sait pas qu'il existe. Mmh. Je pense par exemple au CPS pour les indépendants. Il y a plein de choses qui se font, mais beaucoup d'indépendants ne savent pas ou n'arrivent pas à faire le pas. Mais il y a ce problème donc d'accompagnement et de compréhension. Et puis il y a ce système d'aide qui arrive en décalage. J'en parlais hier avec un des responsables du bar à cocktail Chemistry Botanics. Il disait il y a un décalage au moment où nous on a besoin d'aide et au moment où on propose de l'aide et puis finalement qu'on la reçoit concrètement. Ce décalage est tel qu'il continue à mettre en danger les établissements. Et donc, quand bien même il y a parfois une réelle bonne volonté de la part des gouvernements, eh bien il est maladroitement mis en place parce qu'il arrive à chaque fois à un coup trop tard. Et et parfois même, il n'est pas assez inclusif dans sa construction. Je comprends la difficulté des autorités à rédiger des textes et à mettre en place des aides qui puissent aider tout le monde. Je vois bien la difficulté. Mais je vois beaucoup de personnes qui se retrouvent de personnes morales, j'entends, qui se retrouvent en dehors de ces critères parce que bizarrement il y a une différence avec les codes NACE, c'était pas prévu, on n'avait pas compris où les sièges d'exploitation, les unités d'établissement, etc. sont à des endroits différents et donc du coup les aides ne sont pas comprises et puis si on a le siège, enfin et ces personnes sont dans un désordre extrême à cause de ça. Et donc, c'est vrai qu'il y a, de l'aide, mais il y a un décalage et puis il y a des problèmes et ça monte les gens les uns contre les autres au final. On voit qu'il y a beaucoup de colère, de haine, d'incompréhension, parfois même dans les secteurs, chacun face à son voisin. Ça devient compliqué de continuer à garder un tissu qui est hyper solidaire. C'est pas forcément évident à ce niveau-là.
Dans quel sens c'est un peu toi t'as reçu ça et moi pas encore ou toi t'as droit à ça et moi pas
mais,
et
c'est oui pas, mais c'est pas normal, c'est pas forcément fait dans l'idée de jalousie haute, c'est parce que là c'est parfois une question de vie ou de mort.
Oui, il y a des urgences.
Oui, il y a des urgences et il y a beaucoup d'incompréhension. Et pourquoi eux ils peuvent ouvrir et moi je ne peux pas, et pourquoi dans le bois de la Cambre il y avait un chalet qui avait le droit d'être ouvert et moi alors que je pourrais avoir 12 personnes j'ai droit qu'à 2, et pourquoi moi je ne peux pas faire de la emporter, et pourquoi moi on a été visiter ma cave alors que j'ai jamais rien fait de mal. C'est toutes des choses qu'on reçoit.
Et puis des questions légitimes en fait.
Clairement, clairement, fois. Clairement.
On a d'un côté, on oppose véritablement des revendications et puis après des questionnements tout à fait légitimes d'un côté et de l'autre des règles qui sont imposées de manière d'une par unilatérale et qui suivent une logique qui n'est pas directement accessible. Et je reste prudent en disant juste ça parce que globalement, ce qui arrive à déterminer l'accès à telle ou telle indemnité n'est pas logique, ne fonctionne pas, n'est pas quelque chose de directement accessible et manifestement, ces décisions ne sont pas prises en concertation, en entente avec les secteurs auxquels ces indemnités s'appliquent. Donc il y a quelque chose qui manifestement ne fonctionne pas et ça fait plus d'un an. Ça fait plus d'un an qu'on se rend compte qu'en fait, il y a quelque chose qui ne fonctionne pas bien.
Il serait peut-être temps qu'on essaye d'avancer un petit peu, en tout cas. Parce que ça devient franchement très très long et les gens vont perdre espoir. Et quand les gens perdent espoir, c'est fini. Enfin, s'il n'y a plus l'espoir, il n'y a personne qui va se lever le matin. Il n'y a personne qui va se battre. Il n'y a personne... ça n'est pas possible.
Il y a les deux côtés. C'est soit perte d'espoir ou alors...
Ou alors l'accès à la violence.
J'ai plus rien à perdre. J'ai plus rien à perdre. Et effectivement, c'est quelque chose qui est occupé de gentiment grimper de ce qu'on remarque sur le terrain. Il y a globalement plusieurs tendances, mais ce à quoi on assiste pour l'instant, c'est je n'ai plus rien à perdre et ce message qui est porté par tiens la culture, tiens l'ORECA, tiens les fournisseurs, tiens les enseignants, tiens etc etc. Et c'est occupé de créer alors. C'est d'un côté extrêmement positif, ça permet de se rendre compte que globalement nous avons un message unanime, univoque, apporté aux personnes qui nous dirigent, et c'est un message dangereux. Vous ne faites pas bien votre travail. C'est assez catégorique, c'est une sentence. Mais vous ne faites pas bien votre travail, en l'occurrence, et c'est quelque chose qu'on peut soutenir avec plusieurs exemples. Qu'est-ce qui amène, on le disait tout à l'heure avec les exceptions, qu'est-ce qui amène qu'on ne puisse pas recevoir autant de personnes dans un établissement, mais que par ailleurs les trams sont bondées? Qu'est-ce qui amène à ce qu'on puisse continuer à aller à l'école, mais le théâtre, c'est pas possible? Comment est-ce qu'on peut justifier scientifiquement le fait que des supermarchés puissent recevoir un nombre important de personnes avec des concentrations locales? C'est-à-dire on ne peut pas considérer que le supermarché va être... les personnes qui les visitent vont être réparties uniformément dans l'espace. Il y a des concentrations aux caisses, notamment. Et qu'en même temps, d'autres endroits sont strictement interdits. Il n'y a rien qui vient le justifier scientifiquement, ça ne se défend pas. Pourtant, il n'y a aucune explication de la part des personnes qui nous dirigent.
Oui, il n'y a pas d'explication gouvernementale sur Fred.
Est-ce qu'il commence quand même à y avoir une prise de conscience de l'administration, de la politique, parce que ça fait plusieurs week-ends de Standing for Culture, ça fait, le secteur horeca, on entend quand même un petit peu, il me semble qu'on fait tout pour l'entendre. Est-ce qu'il y a quand même des perspectives d'entente, de concertation, d'écoute, de prise en compte de ces paramètres? Ou c'est noir?
Il y a quand même plusieurs politiques qui vont vers les collectifs, et il faut le souligner, que ça soit au collectif Resto Bar et chez Wikipedia, nous avons été régulièrement invités pour participer à des tables de discussion, à des séances de travail, à des réunions virtuelles et ce genre de choses. Donc clairement, il se passe quand même des choses. Il y a une écoute. Maintenant, ce qui est intéressant, être écouté, c'est bien. Être entendu, c'est mieux. Qu'on en fasse quelque chose à la fin, c'est quand même l'idéal. Il continue à y avoir des décalages. Ils sont là, les décalages. Et donc, je le redis, je comprends la difficulté. Je ne suis pas à leur place, donc je sais que c'est pas facile à faire. Je sais que c'est tout un pays à diriger dans une situation qui est exceptionnelle. Maintenant, la situation est exceptionnelle depuis longtemps maintenant. Et ces personnes qui sont dans les gouvernements... ont eu le temps de se décider si c'était stop ou encore pour elles en tant que personne. Si elles ne se sentent pas capables, elles peuvent faire un pas de côté. C'est pas grave. Je préfère que ça, si un médecin me dit je ne sais pas vous soigner, allez voir un confrère, je ne vais pas l'insulter de tous les noms, je vais aller voir le confrère. Eh bien, c'est pareil. On est dans une situation complexe. Si une personne ne se sent pas OK, qu'elle change de job. Tout simplement. Tout simplement. Moi, par exemple, bêtement, j'avais un job avec la situation, j'ai changé de job. Et on est tous comme ça, pour plein de raisons. Faites pareil, les gars. C'est juste ça. Et à un moment donné, c'est très bien de nous entendre, mais faites quelque chose de ce qu'on amène. Et entendez la population qui s'exprime, et faites-en quelque chose. Ça sert à rien de dire qu'on peut aller jouer au frisbee.
Ou aller faire du kayak.
Oui, voilà, c'est pas de ça dont on a besoin. Il y a des gens qui meurent. Il y a des gens qui meurent à cause d'une maladie qui est horrible. Il y a des gens qui meurent à cause de plein d'autres maladies. Et puis, il y a des gens qui se laissent mourir. Et ça, c'est pas possible.
Ça soulève aussi quelque chose qui va être difficilement documentable directement. Pour avoir eu quelques échanges à ce sujet, c'est occupé d'être réfléchi. Mais globalement, les mesures qui sont prises, la manière dont tout ce bazar est géré, amène à ce qu'il y ait des... un impact collatéral non négligeable. Bien sûr, on parle de tensions, on parle de violences domestiques qui ne naissent pas de cette situation, mais qui se révèlent, qui s'intensifient, qui prennent de plus en plus de place. Détresse estudiantine qui va se prendre la forme de dépression, agoraphobie, tentative de suicide, et j'en passe. Des décompensations psychotiques, des gens qui pètent véritablement un câble simplement parce que ce truc-là ne fonctionne pas, n'est pas logique, ne suit pas quelque chose qui... un scénario qui soit entendable, avec lequel on peut travailler. Et ça donne au final... En plus d'une gestion hasardeuse, ça vient pointer quelque chose de l'ordre de la responsabilité de la personne morale en tant que le gouvernement puisse être considéré comme une personne morale. C'est vraiment délicat, ce truc-là. Oui. Et oui, je voulais encore dire autre chose. Le niveau d'entente qu'on a pour l'instant avec certaines personnes politiques, certaines figures politiques, aurait dû être le niveau qu'on aurait dû rencontrer 2 semaines après la déclaration officielle de cette pandémie. Là, on en est à se dire, ok, peut-être qu'on pourrait faire quelque chose ensemble, j'ai entendu que peut-être qu'on avait foiré quelque part, mais attendez, je vous reviens d'ici 2 semaines calendrier. Ça ne va pas. On est plus d'un an après, et on commence seulement à se dire que peut-être, c'est tard.
Et on est sur un principe de rumeur, en fait tout le temps. Peut-être que 1er mai...
mais les groupes Facebook et WhatsApp, c'est une catastrophe.
Peut-être que cela est la réalité pour vous. Du coup, c'est quoi?
De ce côté-là, en tout cas, c'est insupportable parce qu'on ne peut strictement rien prévoir. Il y a d'un côté ce truc-là, impossible de s'organiser d'un côté, et de l'autre, pas vraiment de justification, pas vraiment d'explication. Voilà ce qu'on a décidé, point barre. C'est pas négociable, c'est pas quelque chose qu'on va pouvoir ouvrir la discussion, c'est comme ça. Mais non, ça marche pas. Non, ça marche pas.
Et ce manque de vision est compréhensible vu la situation, mais ce manque de vision exacerbe encore plus tous ces ressentiments dans, enfin, je disais, c'est sur les groupes Facebook, nous on est sur plein de groupes WhatsApp et on voit les personnes qui se parlent et qui amènent cette situation-là. Ça ressort beaucoup.
On se fie à quelle source d'information? C'est déjà pas simple, cette affaire-là.
Et on reçoit plein de messages aussi. Ah oui, mais moi, j'ai un ami dans un cabinet, il m'a dit que... Et alors, le nombre de gens qui ont des amis dans les cabinets, c'est un truc de fou, hein.
Oui, c'est assez incroyable. Ouais.
C'est impressionnant.
Ouais. Oui, effectivement. si bien que, ben oui, comment on fait pour trier la qualité des informations? Si, dès le départ, les sources d'information, disons, officielles, sont soit une gare en retard, soit sélectionnent, etc. Mais c'est compliqué. Est-ce que, les véritables sources d'information sont difficiles à cerner. C'est déjà un boulot en soi de digérer toutes ces informations parce qu'il y a énormément de bruit. Et c'est pas simple parce que ben il y a rien à faire. Hein. Aucun de nous n'est tout bib. Aucun de nous n'est à même de pouvoir prescrire un médicament et aucun de nous n'est capable d'expliquer, ne fût-ce que vaguement, la manière dont un virus se propage, comment on l'attrape, quels vont être les symptômes prégnants, etc. Enfin voilà, ouais. C'est compliqué. Hein.
C'est compliqué et. Dans les commentaires tout à l'heure, il y avait le fait que l'information n'est pas accessible. Enfin voilà, il y a à la fois le côté enfin compliqué parce qu'il faut expliquer. Enfin voilà, on sait comment suffisamment maintenant que le virus peut se propager par rapport aux premières semaines de attention, ça peut être de contact. Voilà, on sait qu'il faut ouvrir les fenêtres. Enfin voilà, il y a des choses comme ça qui arrivent. Voilà, enfin qui sont peut-être mal communiquées. Enfin qui sont très certainement mal communiquées. Après, j'ai perdu. mais au-delà de la communication, enfin au-delà de ces défauts de communication, il y a aussi un arbitraire posé parfois et parfois justifié comme étant ouais c'est plus facile de poser un interdit tout absolu arbitraire plutôt que faire des consignes compliquées. On a eu ça sur la circulation avec masque, où il y avait des rues où on pouvait avoir des masques, des rues sans masque avant.
C'était un peu le bordel. Hein.
Voilà. Et la réaction politique là-dessus a été, ouais, ben voilà, on va juste mettre des masques partout, même si ça n'a aucun sens à 6h du matin d'avoir un masque dans la rue alors qu'il n'y a personne, même si ça n'a aucun sens dans certaines rues d'avoir un masque. Et donc, il y a à la fois ce déficit d'information et d'actualisation des informations parce qu'on en apprend quand même avec le temps et puis enfin c'est arbitraire par refus éducatif de dire mais bref on va plutôt interdire tout.
Ben là personnellement j'ai quelque chose à dire par rapport à ces informations. Ben je suis dans toujours plein de projets et j'ai un projet depuis un an avec une collègue de grande qualité Pauline Duclos-Lacoste qui travaille, enfin qui a monté Fit de Culture et on collabore sur un projet sur le côté. Ça fait plus d'un an que ce projet nous le proposons aux autorités. C'est un projet pour rendre accessible et digeste l'information aux industries culturelles, créatives et événementielles. Notre dossier est de qualité. Nous l'avons amené, je ne sais pas combien de fois dans différents cabinets, on nous dit oui, on nous dit qu'on va avoir des subsides et au final, un an après, on nous dit mais vous êtes en retard et on leur dit mais ça fait un an que vous le proposez. Oui, c'est vrai, on a été lent. D'accord, et donc on attend encore et on a eu cette information il y a 2 mois. C'est parce que nous étions à temps et eux ont pris trop de temps. Eh bien, donc du coup, c'est trop de temps et on attend encore. Et c'est une stase comme ça. Qui pourtant, nous avions amené une solution clé en main, clé sur porte pour rendre toute information juridique d'aide. Enfin, voilà, je vais pas expliquer tout le projet, mais ce projet est en attente. Mais on attend quoi? On attend qui? Qu'est-ce qui se passe? Ça fait un an qu'il existe ce projet, hein?
C'est assez drôle de voir qu'effectivement, d'un côté, on est face à un agriculteur qui peut prendre tout son temps parce qu'il est débordé, et de l'autre côté, essayer seulement de payer vos impôts en retard.
Ah oui, bien sûr.
C'est une autre facette de cet interlocuteur-là. Alors après, c'est le grand hôte, c'est le truc auquel on, enfin, qu'on ne peut pas figurer en tant que tel. Mais enfin, il y a un petit peu cette idée que le traitement de ce genre de situation, c'est un peu à double vitesse. Enfin, on n'est pas logé à la même enseigne. Je voulais revenir sur ce truc arbitraire. Moi, j'ai l'impression que effectivement, ce serait pour faciliter, le masque pour tout le monde dès 6h de matin. Ça permet effectivement de ne pas devoir chipoter sur oui, mais rue du métal, il faut pas le masque, mais seulement devant les maisons impaires sur le pied gauche.
Ça me fait penser à la rue du Lombard. Descends la rue du Lombard, de la place Saint-Jean jusqu'au boulevard Anspach, au moment où il fallait enlever et mettre les masques. C'était super drôle. Il fallait mettre le masque, enlever le masque, mettre le masque, enlever le masque. C'était toute une aventure. Hein.
Donc, pour ma part, en tout cas, moi, dès qu'il fallait mettre un masque, je suis vraiment fervent défenseur de la simplification de ce genre de trucs, et je suis à 200% fervent défenseur aussi du principe de précaution. Allons au plus sécure, et éventuellement essayons de lâcher du lest lorsque c'est possible. Maintenant, ce que j'ai l'impression de voir, c'est que avec des mesures aussi strictes, ça vient au fond signer pas d'une compréhension sûre, mais au contraire de quelque chose qui est du on ne sait pas encore trop comment ça fonctionne. On va essayer de mettre des limites importantes pour se dire qu'on a été un peu trop sévère, plutôt que dans l'autre sens, de se dire rien à foutre, allez-y, faites ce que vous voulez et survivent seulement les plus forts. Moi, ça me semble un truc à souligner. Et puis, ce truc de sans exception, justement, il y a des exceptions. Je reviens avec ce truc-là. Les théâtres fermés, les IKEA ouverts. Ce serait sans doute rapide de dire qu'on voit un petit peu ce qui s'y joue. Mais en tout cas, ça pose question. Qu'est-ce qui amène à se dire qu'on peut accepter que des enseignes de supermarchés puissent se générer des bénéfices absolument records, indécents dans un contexte comme le nôtre, alors que la culture crève la dalle, alors que l'horeca est occupé de mourir la gueule ouverte, etc. Et qu'est-ce qui permet de justifier, d'expliquer quel est le sens qu'on peut donner à une situation comme celle-là? C'est une question à poser. Hein.
Ça ne représente jamais que les rapports de force qui existaient déjà avant.
Bien sûr, ça les souligne.
Même plus.
C'est vraiment sa forme.
Clairement.
Oui, absolument, tout à fait. Et donc, moi, je pense que globalement, c'est le bon moment pour se poser ce genre de questions. Est-ce que c'est comme ça qu'on a envie de vivre? Est-ce que c'est dans cette Belgique-là, dans cette Europe-là, dans ce monde-là, peu importe? Est-ce que ça correspond à nos valeurs? Est-ce que c'est quelque chose qu'on veut accepter, qu'on veut est-ce que c'est le monde qu'on veut transmettre à nos gosses? Question bête, hein, vraiment toute simple.
Je trouve qu'elle est elle existe, cette question, et elle est hyper importante, et c'est maintenant qu'on doit se la poser.
Bien sûr.
Mais la situation d'aujourd'hui et la manière dont les autorités nous ont fait vivre cette année, qui était de semaine en semaine, en fait, c'est de mini-jump en mini-jump. Ça nous a aussi empêché de pouvoir, à titre individuel ou même de manière tout à fait collective, nous poser ce genre de questions profondes. Parce que, étant toujours dans le au quotidien, dans le au jour le jour, dans on va voir vendredi prochain, et bien ça coupe toute possibilité de se dire il faut repenser la société. En un an, on a survécu au jour le jour, parce que tout le système a été mis en place pour être pensé au jour le jour.
Oui, en fait, c'est impossible de se projeter.
Complètement.
Et même à très court terme.
Ah, mais complètement. Absolument. De semaine en semaine, on doit attendre pour l'une ou l'autre mesure ou pour l'une ou l'autre date. Et puis, on sait toujours que la date est a priori, selon aussi.
Et, Ce qui empêche aussi tout type d'organisation.
Exactement.
En fait.
Ça empêche de s'organiser, que ça soit dans le... Alors, avec des gros guillemets, le combat, peu importe ce qu'on met derrière, mais aussi pour la vie, tout simplement.
C'est aussi une part importante d'appel à l'unanimité, en disant, c'est tout le monde ensemble contre ce virus, et on va mettre de côté nos petites divergences, parce qu'il n'y a justement pas ces débats politiques sur la société qu'on veut, parce que les personnes qui souhaiteraient avoir cette discussion, on va dire, mais non, enfin, c'est pas là maintenant, il y a des gens qui meurent. Et donc, il n'y a rien.
Il n'y a rien dans les bars, c'était aussi des lieux où, en fait, où tout ça s'organisait.
Et tout ça se discutait, oui.
Voilà, on faisait le monde là-bas.
Et en fait, on n'a plus du tout ce lien existant qui permet simplement de commencer à se connaître, à échanger, à créer du lien et à s'organiser, en fait.
Quand est-ce que, depuis un an, on rencontre? Moi, j'ai pas rencontré grand monde depuis un an. J'ai rencontré des gens grâce à Wicked Pigeon et au collectif Horeca, mais c'est que professionnel. J'ai rencontré personne et d'un point de vue grandeur d'âme, pour moi, à titre personnel, j'ai pas fait de rencontre. J'ai d'ailleurs perdu des gens de vue, parce que la vie a changé au point qu'il y a toute une frange d'amis où on s'aimait très fort, là n'est pas la question, mais on ne se voit plus. On n'a pas tous envie d'avoir, moi les apéros virtuels, j'adhère pas, donc voilà. Et j'entends que beaucoup de gens ont perdu des amis, je ne parle pas de décès dans ce moment, parce que voilà, j'aime pas ce mot-là, mais il n'empêche qu'il y a des fossés qui se sont créés. Parce que trop loin, parce que trop compliqué, parce que plein de choses. On s'isole, on vit de plus en plus isolé, on perd de vue beaucoup de gens.
On se rend compte vraiment de cette partie-là, de cet aspect-là des impacts, dès lors qu'on n'y a plus accès. C'est dingue, hein, mais c'est de se dire, c'est tellement naturel alors d'avoir une vie sociale, d'avoir des amis, de pouvoir rencontrer des nouvelles têtes, que ça ne nous viendrait absolument pas à l'idée. Je me projette il y a 2 ans, ça ne me viendrait absolument pas à l'idée de me dire « Ah tiens, je ne vais plus voir de nouvelles personnes dans 2 ans. » C'est tout à fait impensable. Rappelons-nous, au centre-ville, voir des touristes qui portent un masque, ça nous semble tout à fait incongru. On peut en rire un petit peu gentiment, parce que globalement, on respire le même air et il n'y a a priori aucun problème. Maintenant, ça ne nous viendrait plus à l'idée de sortir d'un immeuble, d'un bâtiment sans un masque. C'est impensable de s'étonner que dans un film, une série, on voit des personnes non masquées, ça devient délicat, ça devient inhabituel.
J'ai vu un film hier dans un hôpital, j'ai été choquée, j'ai éclaté de rire en me disant « mais pourquoi je suis choquée ?» C'est parce que le film avait en fait 2 ans, et donc c'est pas si vieux. Hein.
Oui. Je reviens avec ce truc-là, les 11 millions, l'équipe, là, ce superbe slogan, de se rendre compte, on a eu un débat la semaine passée, et durant ce débat était parmi nous un psy. J'avais trouvé ça vraiment intéressant, du coup, parce que ça nous permettait d'avoir accès à une autre lecture, un autre prisme de lecture, et venir souligner justement cette métaphore, c'est très très bien, sauf qu'on se rend compte petit à petit... Enfin, ça devient évident de plus en plus que dans cette équipe de 11 millions, il y a 10 joueurs. Et puis, je vais continuer sur cette métaphore en disant que il y a de moins en moins de supporters de cette équipe. Il y a de plus en plus de gens qui vont supporter l'autre équipe. On n'est plus du tout ensemble dans ce combat. Ça ne fonctionne plus. Ça fonctionne de moins en moins. Et oui, je voulais dire autre chose, mais j'ai oublié. C'est pas grave.
Je propose de faire une petite pause musicale. On va écouter... Swing Slow avec le titre Western Bolero.
Ouh! Oh,
8h40 dans les promesses de l'aube, on est toujours avec Marie et Cédric pour Wicked Pigeon et le collectif Resto Bar. Cédric, tu vas nous quitter là?
Oui, oui, tout à fait. J'ai plusieurs casquettes et aujourd'hui je suis aussi psy.
Ah ben voilà.
Donc voilà.
C'est ça. Merci d'être venu jusqu'ici.
Merci à vous pour l'accueil, c'était vraiment chouette. Merci pour le café. Ouais, on va continuer à batailler, hein. Il y a rien à faire, il est hors de question de baisser les bras. Bah, d'autres actions vont venir. Wait for it. Voilà.
Merci d'être venu.
Merci.
Merci à vous.
Et on continue avec Marie. Hein.
Mais oui, je reste ici, moi. Je reste ici. C'est ça. Le café est bon, donc il y a pas de raison que je parte.
C'est ça, exactement. Et alors, on se demandait. Donc, il y a eu quand même quelques rassemblements aussi qui ont eu lieu dans les mois précédents, des actions. Et aujourd'hui, enfin, peut-être revenir un peu sur ce qui a été organisé et ce qui est à venir encore.
Ah ben, disons que l'an dernier, quand on a créé Wicked Pigeon, c'était pas encore, il y avait pas encore le Covid, c'était quelques mois avant. Et donc là, il y avait effectivement beaucoup de projets qui ont été totalement chamboulés quand, enfin, pour le premier confinement, forcément, qu'on avait prévu pas mal d'événements. Il devait y avoir un événement à l'abbaye de Forêt pour Abby Buvette. Il devait y avoir, enfin voilà, il y avait comme ça toute une série d'événements culturels, de live painting show, enfin voilà, on avait eu plein d'idées qu'on a dû mettre au frigo, tout simplement. Et pendant cette année 2020, forcément, on s'est beaucoup concentré sur la communauté, sur notre pigeonnier, comme on l'appelle. On a fait attention à nos petits pigeonneaux. Et donc, on a vraiment dû renforcer toute une série d'aides qui étaient proposées en interne pour nos membres. Que ce soit, ben, j'en parlais tout à l'heure, de la consultance et du conseil sur des des thématiques très spécifiques, qu'elles soient fiscales, comptables, juridiques. On a énormément travaillé sur le droit social. Beaucoup de travailleurs de l'Horeca à ce moment-là, principalement, revenaient vers nous parce qu'ils ne connaissaient pas du tout les mesures chômage technique temporaire. Enfin, c'était des personnes qui n'y connaissaient rien et qui ne comprenaient rien, et c'est pas forcément un secteur super syndicalisé, donc ces travailleurs ne savaient pas trop vers qui se tourner. Et les secrétariats sociaux n'ont pas pour mission que de répondre directement aux travailleurs, donc ils étaient un petit peu dans l'embarras, dans le désarroi. Donc on a reçu énormément de gens, on a fait beaucoup de job coaching, on a établi des CV, enfin voilà, c'était vraiment principalement là-dedans. Et bon, pendant la pause, la petite minute, on parlait de précarisation ici ensemble dans le studio, mais effectivement, on a senti comme ça, dans notre communauté, des chutes à certains niveaux, dont la capacité aux personnes à accéder à une nourriture, même plus de qualité, mais juste à de la nourriture. Et donc là, on a réussi à mettre sur pied différents partenariats, que ça soit Fit de Culture qui nous aide beaucoup, c'est clair, mais d'autres des restaurateurs qui se sont rassemblés autour de nous pour pouvoir proposer des paniers repas en urgence à des personnes qui étaient dans l'embarras. Mais après, on a vu qu'il y avait des suicides dans notre communauté, et ça a été un moment atroce. Et donc là, on a mis en place un accueil avec des psychologues, dont Cédric qui vient de partir. Et puis ben voilà, on a mis en place vraiment toute une série d'aides pour essayer de créer un cocon, un coussin pour rattraper les gens qui tombaient. C'était pas forcément évident. Émotionnellement, c'était même très complexe parfois pour certains d'entre nous au sein de Wicked Pigeon. Mais ça nous a permis de nous rendre utiles à la communauté. C'était quelque chose qui était très important. C'est fortement ancré chez nous. Maintenant, forcément, on a continué à réfléchir parce que nous, on a gardé ce côté moyen terme et long terme. Et donc, on s'est dit, OK, nos événements sont au frigo, mais on ne va pas les laisser tomber.
Et c'est un rôle qui n'est pas évident et qui n'est pas du tout pris en charge, en fait, par un gouvernement, par exemple,
dans
ce pays. Et donc, ça veut dire pallier, en fait, à une vraie misère, en fait, qui est là. Avec des petits moyens.
Ah ben déjà, les moyens, ce sont les moyens des administrateurs. Donc c'est notre argent. Après, on a reçu des dons et des choses comme ça, mais enfin, on n'a pas reçu 50 000 euros. Hein. Je veux dire, c'est quelqu'un qui nous donne une enveloppe de 20 euros. Enfin, je pense même à une petite dame qui m'avait donné une enveloppe de 20 euros en disant « Si jamais vous n'avez pas assez pour les enfants ». Ben, voilà, c'est des dons comme ça qu'on reçoit. On a une campagne GoFundMe qu'on laisse ouverte. Les personnes peuvent déposer des sous s'ils le veulent. On peut adhérer, mais c'est que de la bonne volonté des gens. Et puis parfois, on me ramène 10 kilos de pâtes ou 20 kilos de farine, des fèves, des lentilles. Enfin, et donc nous, on capitalise tout ça et on essaye de redistribuer. Mais de base, ce n'était pas notre métier. Et comme je le dis souvent aux équipes, on n'est pas le CPAS, ce n'est pas notre rôle, mais par contre, on laissera personne tout seul. Et donc, on se casse la tête pour ne laisser personne sur le côté, parce que chez nous, on n'est que des exceptions. Et donc, on n'a pas de règles générales, et on va écouter la personne, et on va voir ce qu'on peut faire pour elle, et on va l'écouter, on va l'entendre. Maintenant, comme je dis, c'est pas notre métier. C'est pas notre métier et on n'a pas les moyens. Je veux dire, on aide une centaine de personnes chaque semaine. C'est énorme.
C'est énorme. Oui.
C'est énorme. Mais on travaille 10, 12, 14 heures par jour, bénévolement. Et je le répète, les gens chez Wicked Pigeon, bon, il y en a qui font une heure, deux heures, c'est merveilleux. Mais on est tous des bénévoles, il n'y a personne qui a de rémunération jusqu'à présent. On a engagé notre première travailleuse, Fanette, qui était venue la dernière fois. Mais c'est cette semaine que ça se fait, donc c'est la toute première. Et on s'est battu pour, donc c'était pas forcément facile. Mais c'est vrai que les personnes ont des besoins tous très différents, mais souvent c'est lié au financier et à l'isolement. Ça, c'est vraiment le plus que l'on a vu. Et pour 2021, eh bien, on est occupé à travailler sur du streaming. Donc là, on est occupé à travailler sur notre nouvelle plateforme web, qui est un très gros projet en interne, avec du streaming, avec un e-shop de qualité. Voilà, on est vraiment occupé à monter tout un projet, travailler avec des plateformes belges, des travailleurs bruxellois, essayer de travailler d'un point de vue local pour créer de l'événement digital déjà. Et ça, c'est quelque chose qui nous tient à cœur. On a un deuxième projet, j'en parle pas trop parce que c'est vraiment aux prémices, mais en tout cas, c'est une scène itinérante, Covid-friendly, qui nous permettra de pouvoir aller tant sur des parkings, dans des homes, dans des prisons, pourquoi pas, dans des écoles. Enfin voilà, essayer de ramener la culture d'un point de vue local, dans les quartiers, pour que cette culture puisse être à nouveau accessible. Mais pas que la culture, hein, mais aussi... Enfin, c'est la culture en tout cas au sens large. Elle est pas... C'est pas la culture hautement intellectuelle qui semble pas apporter, c'est ça va du slam au rapcore, ça va de la musique classique au jazz, ça va du lettrage au pointillisme, ça va dans tous les sens, parce qu'en tout cas chez Wicked Pigeon, nous avons décidé de ne pas mettre en avant un seul type de culture, mais de soutenir la culture au sens large et surtout les travailleurs et les porteurs de projets qui sont à l'intérieur et les étudiants aussi, parce qu'on doit pas les oublier, parce qu'ils morflent beaucoup. Et il y a peu de structure pour eux, donc nous, en tout cas, on les inclut.
Non, tu n'avais pas de...
J'ai cru que j'étais au taquet.
Bah oui, non, mais enfin, ça semble oui, très très clair et en même temps, bah voilà, c'est on en est vraiment à tellement se demander. Quelles sont les perspectives, que c'est même là difficile de même rebondir sur une question.
Mais oui, mais même le quand. Alors on sait quoi. Nous on sait quoi. On sait pourquoi. On sait avec qui. On sait pas quand.
Mais oui.
Et en fait, c'est le quand qui nous manque. Et un peu le comment. Un petit peu le comment, mais c'est plutôt des normes, et c'est pour savoir et combien il faudra de personnes par mètre carré, est-ce que ça sera les personnes, est-ce que ça sera statique, ou est-ce qu'elles sont en mouvement. Mais ça, on peut s'arranger, c'est notre métier, on va y arriver, il faut nous faire confiance, on sait le faire, et on respectera les normes, parce qu'on veut que ça marche, et puis qu'on veut que les gens soient safe.
Oui, est-ce que ce ne serait pas finalement mieux encadré, en fait, aujourd'hui, si les établissements rouvraient, alors après, il faut voir quelles sont les mesures qui seraient imposées et si les choses sont faisables, parce que j'imagine que d'un établissement à l'autre, les moyens ne sont pas les mêmes.
Mais les moyens, et puis logistiquement, oui, voilà. Pratiquement, architecturalement, parfois c'est un peu compliqué. Ça, c'est clair que ce n'est pas évident, mais n'oublions pas quand même que l'an dernier, il y a le monde de la nuit qui a quand même pondu une manière de travailler, un risk management extraordinaire qui a été utilisé dans plusieurs pays et qui était de grande qualité, qui a été fait par des gens qui connaissent leur métier. Et on a tendance à l'oublier. On connaît notre job. On connaît notre job. Un restaurateur qui devait respecter les normes établies par l'AFSCA, on lui faisait confiance et puis de temps en temps on allait vérifier. Et puis s'il le faisait pas bien, ben on lui dit attention et on lui ferme son truc si ça marche pas. Mais on fait pas chier ceux qui savent faire leur job. C'est des normes pour éviter des intoxications alimentaires. C'est quelque chose qui peut aussi aller mal. Et pourtant ils s'en sortent très très bien s'ils font bien leur job. Et pourquoi ils ne le feraient pas bien pour le Covid si on leur donne des règles claires qui sont faisables, évidemment, hein, je veux dire, ça sert à rien d'inventer des choses qui n'ont pas de sens, mais en quoi tenir compte de normes Covid serait différent que de tenir compte de normes pour éviter une intoxication ou pour éviter c'est simplement une nouvelle procédure à rajouter. Oui, ça va pas être facile, oui c'est plus compliqué, mais faites-nous confiance.
Et il y a une impression d'être un peu infantilisé aussi dans tout ça et de pas être reconnu dans le métier.
Mais infantilisé, d'accord, mais on nous prend pas par la main. Enfin, moi, je suis maman, je ne traite pas mon enfant comme l'État traite ses citoyens. Et heureusement, d'ailleurs. Donc, c'est infantilisé. Ça pourrait encore, si on nous tenait par la main et qu'on faisait les choses à notre place. Mais non, ça se passe pas comme ça. Dans les faits, on nous dit juste, t'attends, pas maintenant. ok, mais on attend, et le quand nous manque. Et le quand est changeant, et donc, c'est une catastrophe pour plein de gens. Donc nous, on a un programme qu'on a établi en décembre, mais on a un programme sans date, on a un programme avec des fourchettes, et on va essayer de faire avec. Donc on sait que, on veut collaborer, on va aider, l'ouverture de saison d'Abbi Buvette, donc dans l'abbaye de Forêt, on sait qu'on va faire quelque chose là, on sait qu'on va faire des concerts dans une salle au Motown qui est gérée par Creative District, on sait qu'on va mettre en valeur un super bar qui s'appelle Réservoir Bar qui est dans les Marolles, parce que c'était quelque chose qu'on devait faire l'an dernier avec Senso à nos administrateurs, mais voilà, c'est postposé, mais il nous manque le camp. On a comme ça plein d'événements qui sont prêts, mais on attend. Et on n'a pas le choix que d'attendre. On va pas le faire. Nous, on n'a pas pour ambition d'aller à l'encontre de la loi et des choses comme ça. C'est pas du tout comme ça qu'on se positionne. Mais il n'empêche qu'en attendant, on devient poussiéreux, quoi. Hein. Et puis on s'ennuie. On s'ennuie et on veut faire travailler notre communauté. On n'est pas là, nous, pour faire nos propres événements. On fait que du collaboratif. Et donc, quand on crée un événement, on va dans le local et on va chercher le restaurateur qui est là. On va aller trouver des musiciens, des plasticiens, des animateurs, mais qui viennent de ce coin-là. Peu importe où est le « là », forcément. Et c'est dommage parce que là, on ne peut pas mettre au travail les gens. On est très ambitieux, mais on nous retient fort. On espère que ça va aller mieux avec le temps. Mais les gens, comme je disais, perdent espoir. Et comme disait Cédric, s'énervent, s'impatientent. Et commencent à se dire, bon, j'y vais, quoi. Et ça, moi, personnellement, à titre tout à fait personnel, c'est quelque chose qui me fait très peur quand les gens se disent, ok, soit à quoi bon, soit qu'est-ce que je risque.
Et il n'y a plus rien à perdre.
Non. Dans un sens comme dans l'autre, en tout cas, il y a beaucoup de désespoir et beaucoup de souffrance. Et je suis quelqu'un qui est fort touché par ce genre de choses.
En tout cas, merci Marie
d'être venue
jusqu'ici. Et est-ce que tu peux rappeler un peu les endroits virtuels où on peut trouver Wicked Pigeon ?
Alors, Wicked Pigeon, on peut nous retrouver sur Instagram, sur Facebook. Ça, c'est vraiment nos canaux principaux. On est disponible 7 jours sur 7. Hein. Bon, parfois, il faut nous laisser quand même une petite heure pour répondre. On a eu un petit... Je souris parce que j'ai eu un petit souci technique. Le message a mis du temps à arriver jusqu'à nous, mais voilà. Donc, Instagram, Facebook habituel et par email wickedpigeonshop@gmail.com et on se fera un plaisir de répondre. Et avis à tous les artistes, à tous les créateurs, à tous les professionnels de l'Oreca et de l'événementiel. Si vous avez besoin d'aide, si vous êtes tout seul, si vous en avez marre d'être tout seul, rejoignez-nous sur notre groupe Facebook. On a une super communauté. On est plus de 1200 déjà bruxellois, ou presque tous bruxellois, et on serre les coudes et on laisse personne derrière. Et si quelqu'un ne comprend pas une facture, si quelqu'un a besoin de comprendre un contrat, si quelqu'un a besoin de remplir son frigo, parce qu'on ne sait jamais. Il ne faut pas hésiter à faire appel à nous. On collabore énormément avec le collectif Resto Bar, mais on collabore avec plein d'autres gens. Notre idée, c'est d'être ensemble et vraiment de recréer de la solidarité et que les gens puissent y croire à nouveau. Parce que souvent, on dit mais pourquoi vous faites tout ça ? Mais c'est parce que parfois, l'autre, c'est moi. Et donc, forcément, je ne vais pas me laisser tomber et donc je ne laisserai pas les autres tomber. Et on est tous comme ça. On est 30, donc on a de quoi faire.
Merci Marie.